Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Cette semaine, nous allons retrouver Kenneth Cook. Kenneth Cook, dont je vous ai raconté lu quelques nouvelles. Kenneth Cook est australien. C'est une culture que l'on ne connaît pas tellement en France. Et Kenneth Cook, moi, me réjouis parce que ses histoires sont à la fois étonnantes. Et il les raconte d'une manière très drôle. Aujourd'hui, la première de ses nouvelles a pour titre « Tour de chameau, 5 dollars ». L'un des mythes les plus répandus sur l'Australie, c'est qu'elle n'abrite aucune créature dangereuse. Enfin, hormis les crocodiles, les serpents et les araignées. C'est faux. Il y a aussi les aborigènes et des chameaux. Individuellement, ils sont redoutables. Ensemble, ils sont quasi mortels. Ils ont deux qualités communes. Une conscience ineffable de leur supériorité, malheureusement tout à fait fondée, et un mépris total de mon bien-être personnel. Pour une raison obscure que j'ai d'ailleurs depuis longtemps oubliée, j'errais dans le grand désert de sable au nord-ouest de l'Australie occidentale quand je rencontrais Namitiji. Il campait en bordure de piste avec trois femmes, sept chiens, deux chameaux. Tous les chiens se grattaient, les femmes s'occupaient de leurs affaires et les chameaux affichaient un air hautain. Namitiji, homme menu d'une trentaine d'années, à l'air railleur, avec la chevelure abondante et frisée, au visage glabre, avec un nez écrasé et une large bouche, attendait à côté de la piste, seulement vêtu d'un pantalon déguenillé, avec une pancarte sur laquelle était inscrit à la main Tour de chameau, 5 dollars. C'était irrésistible. Les blancs les plus proches habitaient à près de 150 km à Port Hedland. La circulation sur la piste devait approcher un véhicule par mois et cet homme proposait des tours de chameau aux passants. Il avait repéré de loin la poussière de mon camping-car. Planter sa pancarte et il m'attendait. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. Nous étions au mois de septembre. Il faisait très chaud. Les mouches étaient envahissantes. Je n'avais donc pas l'intention de rester longtemps. Namitiji et moi nous présentâmes. Les femmes vêtues de robes à fleurs s'occupaient de leurs affaires, assises en rond autour d'un feu. Les chiens continuaient à se gratter et les chameaux à afficher un air hautain. Après quelques minutes de bavardage, je fis un geste vers les chameaux. Vous arrivez à en vivre ?
Oh oui !
Me répondit Namitiji avec un sourire facétieux.
« Oh oui, j'arrive à en vivre. »«
Mais vous ne devez pas avoir beaucoup de clients par ici. »«
Ouf, suffisamment. »
J'en conclus que 5 dollars par mois parvenaient à répondre aux besoins simples et frugaux de nos mâles primitifs. « Est-ce que je peux prendre une photo de vos chameaux ?» lui demandai-je. J'avais vaguement l'intention d'écrire un article à propos de cette anecdote un jour ou l'autre. J'aurais aussi voulu photographier Namiji, ses femmes, ses chiens. Mais je savais que beaucoup d'arborigènes n'aiment pas les appareils photo car ils croient qu'en capturant leur image, on capture aussi leur âme. Namiji ne s'embarrassait pas de telles notions.
« 5 dollars pour les chameaux et 5 autres pour me prendre avec les filles. »
Ça me parut raisonnable et je passai plusieurs minutes à photographier les êtres humains avant de m'intéresser aux chameaux. Optant tout d'abord pour un gros plan de sa tête, je me dirigeai vers l'animal le plus proche. Il me rota à la face. Je fus alors confronté, pour la première fois de ma vie, à l'une des choses les plus redoutables de ce bas monde. La laine de chameau. Représentez-vous l'odeur du contenu d'un estomac de vautour, celle d'un pauvre chat mort depuis des lustres dans une fosse d'aisance, et celle d'un curé indien en décomposition 4 jours après avoir été ingurgité. Combinez toutes ces odeurs et le résultat évoquera un Chanel numéro 5 comparé à une haleine de chameau. Projeté en arrière, je toussais, m'étouffais et me demandais si je n'allais pas succomber. Namiji tourna poliment la tête jusqu'à ce que je me remette. Je me contentais ensuite de prendre quelques plans moyens des animaux, restant à un maximum de distance de leur tête. « Ben, merci beaucoup, dis-je à Namiji en lui tendant un billet de 10 dollars.
« Vous voulez pas faire un petit tour de chameau ?»
Je levai la tête sur les énormes bottes. Bête, énorme bête, oui, et m'imaginait, grassouillet, mou et sans un brin d'agilité, perché au sommet d'une bosse et qui semblait culminer à une hauteur de 2 fois ma taille. Imaginez-vous là-haut, imaginez que vous êtes là-haut et que la bête se tourne vers vous et ouvre la gueule. « Non, merci, lui répondis-je. » Namiji prit un air abattu et pensif.
« Vous avez pas envie que je vous prenne en photo à d'autres chameaux ?»
Franchement, l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. Mais comme pour beaucoup d'écrivains, seul l'appât du gain peut avoir raison de ma nature de lâche. Or, une photo de moi sur un chameau m'aiderait à vendre l'article que j'avais envisagé. Il n'en restait pas moins qu'en regardant leur visage condescendant et malveillant et leur bosse inconfortable et haut perché, je soulevais une objection. « Mais j'arriverai jamais à grimper dessus, expliquais-je à Manitiji.
« Oh, ne vous en faites pas, il se baisse. »
Et il aboya un ordre dans une langue étrange, probablement une langue chameau. La bête la plus proche de moi plia immédiatement les pattes de devant et s'agenouilla. Puis elle plia celle de derrière et abaissa la croupe. La bosse était encore à la hauteur de ma tête et je ne voyais vraiment pas comment l'escalader.
« Je vais vous faire la courte échelle !»
proposa Namiji. Il prit une couverture qui traînait près du feu et la jeta sur la bosse.
« Voilà ! Vous serez plus à l'aise comme ça !»«
Ouh, ça, j'en doutais fort !»«
Passez-moi votre appareil photo !»
Vous savez vous en servir ?
Bien sûr !
Il eût été grossier de refuser. Je lui tendis l'appareil. Vous pourriez peut-être me prendre juste à côté du chameau.
Non, l'effet serait beaucoup moins bon. Posez le pied sur mon dos et montez. C'est facile comme tout.
Il se plaça à quatre pattes à côté du chameau. Une nouvelle fois, il eût été grossier de refuser, même si je craignais d'écrabouiller Nanumitiji sous mon poids considérable. Je ne l'écrabouillais pas. Dès que je fus debout sur son dos, il tendit les jambes et les bras et me hissa jusqu'à l'emplacement où je pouvais escalader la bosse. Je m'y trouvais particulièrement mal à l'aise et très, 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 très loin du sol. Namitiji me tendit la laisse du chameau.
Il suffit de tirer d'un côté ou de l'autre pour le diriger.
Mais je veux aller nulle part, je veux simplement une photo. Avec un grand sourire, Namitiji lança un nouvel ordre en langue chameau. L'animal tendit les pattes arrière. Je vacillais et fus sur le point de dégringoler par-dessus sa tête quand il tendit les pattes avant. Je vacillais alors de l'autre côté et faillis chuter de la croupe. Je me retiens grâce à la bride. La bête tourna la tête et ouvrit la gueule. Et voilà que je me balançais à une distance inconcevable de ma terre ancestrale, douloureusement plantée sur une bosse de chameau, enveloppée dans un nuage de gaz délétère qui aurait foudroyé un éléphant en bonne santé à plusieurs mètres de distance. « Fais-moi descendre ! Fais-moi descendre !» hurlais-je à Namitiji. Ce dernier glapit en langue chameau. Le chameau déguerpit. Il détala tout droit en plein désert, tandis que je servirais sur la bosse, tirait sur la bride de toutes mes forces et hurlait comme un putois. C'était une expérience exécrable. La sale bête allait plus vite que je n'aurais osé conduire ma voiture dans ce désert sableux parsemé de rocailles. J'étais si loin du sol que je me croyais dans un avion à basse altitude, alors que le mouvement de l'animal me donnait plutôt l'impression d'être agrippé au sommet d'un mât dans une mer houleuse. J'avais une envie désespérée de me précipiter par terre, mais la perspective de frapper le sol lointain à partir du dos d'une bête qui semblait cavaler à une centaine de kilomètres à l'heure était trop effrayante pour ma pauvre et tendre chair précieuse et gâtée. Je me contentais donc de m'accrocher et de brailler. Je volais vers l'horizon, à travers le désert sans piste, sous un ciel d'un bleu ardent, fonçant tout droit en direction de la côte qui n'était pas prête de se matérialiser.
« Au secours ! Au secours ! » hurlai-je inutilement en tournant la tête pour voir si une aide était en chemin.
Namitiji n'était déjà plus qu'un point dans le lointain, planté près de ma voiture avec ses femmes et ses chiens qui n'étaient maintenant pas plus gros que des puces qu'il grattait constamment. Et il me faisait coucou. Si les pensées parvenaient à traverser mon cerveau terrorisé, elles consistaient à me demander si j'allais chuter et mourir, me faire entraîner dans l'immensité désertique et mourir, ou affronter l'haleine du chameau une nouvelle fois et mourir. Ma monture faisait preuve d'une énergie démoniaque et ne montrait aucun signe de ralentissement. La dernière fois que je regardais, Namitiji et les siens avaient disparu à l'horizon. Il n'y avait que des touffes d'herbes éparses, du sable, des rochers à perte de vue, écrasés sous la chape impitoyable du ciel. Je me rendis compte d'une évidence. À moins que le chameau ne me ramène, je ne parviendrai jamais à retrouver ma voiture. Même si je prenais le risque de chuter, je serais coincé et perdu dans l'immensité du désert. Je tentai de tirer de toutes mes forces sur la bride. Le chameau ne ralentit pas l'allure, mais l'ignoble tête se tourna et me souffla dessus. Ah, ce fut ma dernière tentative. Je ne sais pas combien de temps cette folle course dura réellement, mais elle me sembla se prolonger pendant des semaines. J'étais enroué à force de brailler. J'avais l'impression qu'on m'avait matraqué l'entrejambe à coups de hache. Et la terreur et les relents d'haleine de chameau me rendaient malade. Puis, l'animal s'arrêta, subitement. Si brutalement que je fus projeté en avant. Je lui heurtais la tête et m'effondrais sur le sol comme un gros sac de lard. Complètement essoufflé, je gisais, haletais, essayais de reprendre ma respiration. Le chameau baissa la tête et me souffla dessus. Mes poumons s'emplirent de ces gaz abominables, intolérables. Je roulais sur le côté, étouffant, secoué de haut le cœur. J'aurais éclaté en sanglots si j'en avais été capable. La mort m'épargna, au moment même où je l'aurais sans doute accueilli avec un certain plaisir. Et je finis par me retrouver assis sur le sable, les yeux sur le chameau qui avait heureusement reculé et se tenait immobile, l'air hautain. Il faisait une chaleur étouffante et des milliers de mouches m'attaquaient. J'avais une soif brûlante. Il n'y avait pas d'eau. Dieu seul savait à quelle distance j'étais de ma voiture ou dans quelle direction elle se trouvait. De toute façon, j'étais bien trop loin pour revenir à pied dans cette chaleur et sans une goutte d'eau. On peut mourir en quelques heures dans le désert, sans ombre, sans eau. Or, la seule ombre, celle du chameau, était difficilement accessible. J'avais lu dans un récit de voyage que pour éviter de mourir de soif, il faut trouver un chameau mort. Dissimuler dans les plis de son corps, une membrane contient apparemment 7 à 8 litres d'eau. J'avais un chameau sous la main, mais il n'était pas mort. Et pour qu'il le soit, je ne voyais qu'une solution, l'étrangler. Non, c'était pas réaliste. Je compris alors que je ferais peut-être mieux de remonter sur le chameau en espérant qu'il accepte de me reprendre. Je me couvris le nez et la bouche avec un mouchoir et m'avançai lentement vers la bête. Elle ne bougea pas, mais elle scia. Je levai les yeux sur sa bosse, tout là-haut dans le ciel, et me demandai comment diable j'étais censé grimper dessus. Le chameau s'agenouillerait peut-être si je parvenais à lui donner l'ordre correctement.
« À genoux !»
aboyai-je. Le chameau me regarda avec mépris.
« Mais à genoux !»
Pas de résultat.
« À genoux, s'il te plaît !»
Le chameau prit un air arrogant. Décidément, ces bêtes en connaissent un rayon sur le sujet de l'arrogance. Je n'avais guère d'espoir, car même si je parvenais à remonter sur son dos, comment m'assurer qu'il n'allait pas m'entraîner plus loin dans le désert ? Mais ça me donnait au moins une chance de m'en sortir, alors que j'en avais aucune si je restais où j'étais. Je devais employer les grands moyens. Je reculais de quelques mètres, repoussais plusieurs centaines de mouches de mes yeux, épongeais la sueur de mon front et me précipitais sur le chameau au pas de course. Et je ne suis pourtant pas un grand sportif. Bondissant le plus haut possible, je tentais de m'accrocher au sommet de la bosse. Je percutais le flanc d'acier du chameau dans un boucan monumental, m'assommais et m'affalais mollement et lentement le long de son corps nauséabond pour finir à plat ventre dans le sable brûlant.
« Vous avez des problèmes ?»
me demanda la voix de Manikichi. Je sortis la tête du sable et découvris Manikichi. Il s'était approché tandis que je me ridiculisais avec le chameau. Jamais de ma vie, ni avant ni après, je n'ai été plus heureux de voir un aborigène sur un chameau. En réalité, je n'en avais jamais vu avant et j'espère ne jamais en voir un autre, mais Mais je m'égare là. J'allais couvrir de baisers les pieds nus et pousser rue de mon sauveur, puis je l'entendis me parler.
Vous me devez $5 pour ce tour de chameau.
Mais pas de problème. Aucun problème tant que vous me tirez d'ici. Je sortis mon portefeuille et lui tendis un billet de $5. Il se pencha, le prit et le glissa dans sa poche arrière.
Bon, vous voulez faire un autre tour maintenant ?
J'avais du mal à y croire. Cet homme allait me faire payer pour me secourir après m'avoir kidnappé sur son fichu chameau. J'étais cependant guère en position de marchander. Vous voulez $5 de plus ?
Non !
Ah, j'avais affaire à un gentleman après tout.
Non, le deuxième tour, il coûte $100.
Ah bah non, j'avais pas affaire à un gentleman.
100 ! 100 !
Namitichi était implacable. Je regardais sa figure candide et primitive d'arborigène. Je regardais les chameaux, je regardais le désert et le ciel profond. Et j'ai su que je m'étais fait avoir. Je comptais $100. Il descendit de sa monture, lança un ordre à la mienne qui la fit s'agenouiller et il me prêta une nouvelle fois son dos. Mon esprit médiocre finit par comprendre que ce chameau était extrêmement bien dressé. Cette sale bête était complice du racket. Le retour au camp ne prit qu'une demi-heure, c'était juste à l'horizon. Le chameau avait dû tourner en rond avant, tout était prévu. Je descendis de la bosse, filai jusqu'à ma voiture et je m'en allais sans échanger un autre mot avec l'exécrable Namitichi. Lui, il se contenta de m'adresser un sourire supérieur. J'avais parcouru 200 kilomètres de piste. Lorsque je m'aperçus qu'en plus, il ne m'avait pas rendu mon appareil photo. Eh ben, je suis pas allé le rechercher. Ah, il semblerait que l'Australie est un étrange pays où il se place des choses étranges. Et pour en terminer avec les nouvelles de Kenneth Cook, je vais vous lire L'or noir. Escroquer les arborigènes représente une véritable industrie dans les régions aurifères du nord de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Ils reviennent souvent du désert avec de grosses pépites d'or trouvées dans les lieux étranges où peu de blancs ont mis les pieds. Les gens du coin achètent ces pépites pour une fraction de leur valeur réelle et les mineurs affirment que les arborigènes s'en contentent puisque, de toute façon, l'or n'a aucune valeur à leurs yeux.
Rends-toi compte, m'expliqua une crapule invraisemblable. Un noir, il se trouve à côté d'une pépite d'or qui vaut, disons, $10,000 au cours du jour. Eh ben, pour lui, ça représente qu'une pierre dorée. Tu lui donnes $500 et il te prend pour le Père Noël.
Ce chercheur d'or avait un visage de bandicoot. Méfiant, roublard et idiot. Il ajouta...
De toute façon, ils craquent tout leur fric à boire des canons.
Mais qu'est-ce que tu fais de l'or, demandai-je. Tu l'envoies à la banque? Le mineur, qui s'appelait Jim, me lança un petit sourire de rongeur.
Oh bah non! T'en tires beaucoup plus au pub.
Mais le cours de l'or est bien fixé, non?
Oh, bien sûr!
Bah alors, comment tu peux en tirer plus au pub? Jim me regarda comme si je plaisantais ou comme si j'étais quelqu'un de complètement obtus.
Eh ben, faut bien que l'argent sale s'écoule quelque part, non?
J'eus l'air ahuri. Et il faut dire que je l'étais.
Bon. Imagine que t'aies quelques millions de dollars à blanchir. Je sais pas moi, drogue, vol, crime, ou même simplement du fric que tu veux pas déclarer au fisc. Qu'est-ce que tu fais?
Ben, j'en avais pas la moindre idée, moi.
Eh ben, tu vas ici avec ta valise de billets, et puis t'achètes une concession minière, tu comprends?
Non. Se rendant compte que j'étais complètement idiot, Jim s'expliqua clairement.
Ensuite, tu vois, tu vas t'asseoir au pub. Tu fais savoir que tu veux acheter de l'or et que t'es prêt à le payer 10% de plus que le cours actuel. Tout en liquide. Pas de reçu, pas de paperasse. Et puis ensuite, t'envoies l'or à la banque en disant que tu l'as trouvé sur la concession. Tu reçois un beau chèque et puis tu blanchis ton argent sans payer d'impôts.
C'est aussi simple que ça?
Aussi simple que ça!
Et t'achètes beaucoup d'or aux Arborigènes?
Ah, bien sûr! Ils ont le meilleur stock. Et puis, ça évite d'aller prospecter.
Et tu l'achètes à un dixième de sa valeur pour le revendre 10% de plus que sa valeur?
Ouais! Pas mal, hein? Et on se fait du fric sans faire de mal à personne.
Décidément. La prospection d'or n'était pas destinée à quiconque avait un soupçon de poil d'honnêteté. Ah, mais j'avais encore beaucoup à apprendre. Je venais juste d'arriver de Cargoli à Leonora pour ma première aventure de prospection et je campais à une demi-heure de la ville. J'avais recherché de l'or assidûment pendant une demi-heure, mais j'avais rien trouvé. J'avais examiné la platitude alentour du désert brun rouge et gris, piégé sous la coupe bleue du ciel. C'était vaste, il y avait à coup sûr beaucoup d'or, mais aussi beaucoup de désert. Décidant que j'étais pas taillé pour être chercheur d'or, j'étais parti au pub. Et c'était là que j'avais rencontré Jim. Je n'appréciais pas particulièrement sa compagnie, et dès que j'eus appris toutes les ficelles du métier, je rejoignis mon campement encore plus fermement convaincu de ne pas être fait pour la prospection de l'or. Cependant, tandis que je roulais sur la piste à peine visible traversant le désert, je me demandais quelle serait ma réaction si un arborigène venait m'offrir une pépite d'or à un pourcentage infime de sa valeur. De retour à mon camp, je fus choqué et culpabilisé d'y trouver un arborigène offrant de me vendre une pépite d'or à un infime pourcentage de sa valeur. Je le vis debout à côté de ma tante alors que j'étais encore à 5 minutes de lui. Et je le pris d'abord pour un taureau dressé sur ses pattes arrière. En me rapprochant, cette apparition se résolut en un noir, aux épaules et au torse d'un énorme taureau, portant un chapeau gigantesque enfoncé au milieu que je pris pour les cornes de loin. Et en plus du chapeau, il portait un pantalon en lambeaux et c'était tout. Son énorme torse et son visage au nez épaté étaient gris de poussière. Mais on devinait qu'il avait la peau très noire. Je lui donnais dans les 40 ans, sachant que son ébauche de barbe blanche le vieillissait. Il s'approcha de la voiture et j'aperçus derrière ma tente deux femmes aborigènes en haillons assises par terre, entourées de chiens. L'une d'elles tenait un petit kangourou à moitié écorché, elles ne me regardèrent ni l'une ni l'autre. Tous les chiens se grattaient vigoureusement. L'approche de cet homme immense, quasi nu et arborant un chapeau absurde me rendit un peu nerveux. Il semblait capable d'aplatir ma voiture d'un seul coup de l'un de ou l'autre de ses énormes poings. De vagues histoires d'aborigènes sauvages au milieu du désert me revinrent à l'esprit. Mais il se montra tout à fait civilisé en me saluant.
Salut mon pote, je m'appelle Bulbul.
Son accent étrange et prononcé donnait l'impression que l'anglais n'était pas sa première langue. Je me présentai en lui serrant la main et il ne perdit pas de temps pour me faire savoir ce qu'il voulait.
Juste à l'entrée du bush, tu veux acheter un morceau d'or ?
Je souffris simultanément de culpabilité et de cupidité. Puis je me ressaisis.
Bon, je veux bien y jeter un coup d'œil.
Après tout, il n'y a pas de mal à acheter une petite pépite d'or souvenir à un bon prix. Hein. Bulbul sortit de sa poche arrière une énorme pépite d'or, plus grosse que mon poing. Il me la tendit dans la paume de sa main et incrédule, je la saisis et faillis la laisser tomber tant elle était lourde. C'était un morceau d'or irrégulier et noueux qui pesait au moins 800 grammes. Au prix de l'or à cette époque, la pépite valait dans les 30 000 dollars. Mais elle était tellement magnifique qu'elle avait encore plus de valeur en tant que spécimen.
« Tu aimes ?»
demanda Bulbul en me regardant droit dans les yeux.
« Ben oui, elle est superbe, mais... Tu achètes ?»« Ben je suis désolé, mais je peux pas me permettre. »
J'avais 3000 dollars sur moi.
« Tu donnes combien ?»« Ben écoute, excuse-moi, mais tu donnes 1000 dollars. »
J'hésitais un instant.
« 1000 dollars ?» C'est ça, tu donnes 1000 dollars.
Je déglutis. Je n'ai guère plus qu'un poil d'honnêteté. Et rarement l'occasion de me faire 30 000 dollars de bénéfices sans frein de la loi.
Allez, tu veux ?
Après quelques remords, je me rendis compte que l'escroquerie de simples indigènes n'était pas pour moi.
Bulbul, mon pote, écoute, cette pépite vaut au moins 30 000 dollars.
Bulbul me regarda comme si j'étais fou.
Cette pépite vaut au moins 30 000 dollars.
Bulbul avait une expression vide et désemparée.
Je donne à toi pour 1000 dollars. Mais non, Bulbul, tu ne comprends pas. Elle vaut 30 000 dollars. Je pourrais jamais me permettre de te l'acheter à sa valeur réelle.
Il me vint à l'esprit que, comme beaucoup d'aborigènes, Bulbul n'avait pas vraiment la notion des chiffres.
Ça vaut beaucoup, mais alors beaucoup plus que 1000 dollars. Tu l'apportes en ville et au pub, quelqu'un t'en donnera 30 000 dollars.
Bulbul me regardait d'un air songeur.
Tu m'emmènes en ville ?
Je vis le grabuge arriver. D'après ce que je savais des coutumes locales, personne n'allait donner 30 000 dollars à Bulbul s'il ne marchandait pas. Je me voyais d'avance mêlé à une dispute entre cet énorme primitif et des hordes de mineurs rapaces. Cela dit, il aurait été mal élevé de refuser. Et par ailleurs, j'étais curieux de voir ce qui allait se passer.
D'accord, monte.
J'hésitais, fis un geste vers les deux femmes aborigènes qui ne m'avaient toujours pas regardé et dis...
Et les dames ?
« Elles entendent !»
répondit Bulbul. Il ne restait plus beaucoup de place une fois Bulbule installée à l'avant. Mais je réussis à me glisser à l'intérieur et repris la route de Léonora. Bulbule ne décrocha pas un mot le temps du trajet. Il semblait préoccupé. Je présumais qu'il se demandait ce qu'il allait faire de 30 000 dollars. Le pub était bourré, bondé, comme le sont tous les pubs de la région. Je repérais Jim, le chercheur d'or, tout seul au comptoir, exactement là où je l'avais laissé, et décidai de m'adresser à lui pour avoir un tuyau.
Salut Jim, mon pote là, il a une pépite à vendre. Tu connaîtrais pas des acheteurs ?
Jim me regarda, puis Bulbule, et un sourire se dessina lentement sur ses traits de bandicoot.
Tu lui as dit combien ça valait, n'est-ce pas ?
Je lui lançai un sourire d'excuse.
Eh ben ouais, je lui ai dit sa valeur réelle, tu sais comment c'est. Il y a toujours un nigo pour mordre à l'hameçon, glissa Jim. Allez, essaie cet étranger dans le coin.
On reconnaissait l'étranger en question à son extrême propreté et à ses beaux habits. Il portait une veste de safari et un short avec de longues chaussettes.
Non, c'est moi,
dit Bulbule en s'approchant de l'étranger. Je le suivis, Jim me suivit.
Tu veux acheter de l'or ?
Je suis là pour ça, répondit l'étranger. Bulbule sortit son énorme pépite.
Qui aime ?
L'étranger s'empara de la pépite et l'examina sommairement.
Combien ? 1 000 $,
dit Bulbule.
Et pas si vite, hurlai-je, incapable de me retenir.
Et l'étranger me fusilla du regard. Je sentis Jim me tirer par la manche.
Je l'achète 1 000 $, dit l'étranger,
en mettant la main à sa poche de sa veste.
Mais attendez un peu, dis-je.
Mais j'étais bien embarrassé,
car rien n'empêche un homme de vendre son or au prix de son choix. Je n'avais rien à voir là-dedans et j'avais fait mon possible pour Bulbule.
Je me rendis compte que le bar s'était tu et que beaucoup d'yeux intéressés nous observaient. Je trouvais alors ce qui m'apparut comme une solution parfaite.
Bulbule, je te l'achète, moi, cette pépite. Je t'en donne 3 000 $.
Jim me tirait violemment sur la manche maintenant.
Mais arrête tes salades, crétin! Tu vas te faire tuer!
Mais j'étais inflexible. Si Bulbule tenait vraiment à vendre sa pépite pour 3 fois rien, autant que ce soit à moi. Il obtiendrait au moins 2 000 ou 3 000 $ de plus. L'étranger semblait prêt à tirer à tout moment un poignard de sa chaussette et à me trancher la gorge.
J'ai dit que j'étais d'accord,
reprit-il avec une extrême froideur, pour acheter 1 000 $. Je sortis mon portefeuille. Je savais qu'il contenait exactement 3 000 $.
Tiens, Bulbule, lui dis-je.
Ce qui me laissait complètement fauché et me forcerait à revendre immédiatement la pépite. Je rétablirais la part de Bulbule tout en gardant une commission juteuse pour indemniser mon traumatisme. Le regard perplexe de Bulbule sillait entre moi et l'étranger. Sa main se dirigea lentement vers la liasse de billets que je lui tendais.
« Je t'en donne 3 500 $ !»
aboya l'étranger. La main de Bulbule s'éloigna de ma liasse.
« D'accord !»
L'étranger sortit rapidement son portefeuille et comptera 3 500 $. Exaspéré, je martelai le comptoir à coups de poing.
« Mais Bulbule, cette pépite vaut au moins 10 fois cette somme !»
Bulbule me jeta un regard vide et compta ses billets. L'étranger glissa la pépite dans un sac à ses pieds et quitta le bar.
« Toi, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires »
cracha-t-il en sortant.
« Ah ça, c'est bien vrai, » dis-je. « Allez, viens, je te paie un coup. »
Il se tourna vers le barman.
« 2 bières, Charlie !»
puis, à ma satisfaction absolue, il demanda à Bulbul.
Et pour toi, Bulbul, ce sera quoi ?
À ma stupéfaction encore plus absolue, Bulbul répondit.
Une vodka orange.
Eh ben, je te conseille de la descendre vite fait et puis de partir d'ici avant que ce mec revienne. Hein. Pas qu'il puisse faire grand-chose, mais il a l'air un peu dangereux.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demandai-je.
Ben, Bulbul vient de lui vendre un morceau d'acier plaqué or.
Quoi ?
Ben, c'est son racket, hein. Il fabrique des pépites en acier qui trempent dans de l'or, mais il ne peut que vendre aux étrangers. Nous, on le connaît tous.
J'étais extrêmement perplexe, là.
Mais comment il fait ? Enfin, je veux dire...
J'essayais de dire qu'une telle activité ne correspondait pas à ma conception d'un simple indigène. Mais tandis que les mots me sortaient de la bouche, je me rendis compte de quel imbécile je faisais.
Bah, il fait fondre de l'or, et puis il trempe la pépite dedans, c'est facile. Hein. Un blanc pourrait jamais faire passer un truc pareil. Mais personne ne soupçonne qu'un noir puisse avoir une telle ruse, surtout quand il vend à un prix aussi bas.
Mais l'acheteur... Jim sourit alors.
Ah, bah t'as fait monter le prix à 3 500 pour Bulbul. Bien joué.
Oui, et merci beaucoup. Je te paierai volontiers un coup à boire, mais je crois qu'il vaut mieux que je traîne pas.
En revenant au campement, je demandais à Bulbul. Écoute, puisque je quitte jamais, enfin à jamais, la région demain à l'aube, dis-moi juste un truc. Mais où est-ce que tu trouves l'or que tu utilises pour plaquer l'acier ? Bulbul se tourna vers moi et me regarda.
Où veux-tu que je le trouve ? Je l'achète au pub, pardi.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Stéphane qui se trouve derrière la vitre. Et à vous, chers auditeurs, je vais vous dire, comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.